Vous écoutez toujours Radio Éthique, voici un sujet d'Audrey Scavinet.
Et si la crise que nous traversons actuellement était avant tout une crise morale, voire spirituelle, et qui viendrait de notre façon de toujours tout fragmenter, séparer et rationaliser? Et si notre mental et notre culture nous jouaient juste de vilains tours, et qu'il nous faudrait abandonner toutes nos croyances limitantes sur nous-mêmes pour tous ensemble créer les bases d'une société complètement différente? C'est en tout cas ce que semble affirmer Bettina Depau, philosophe, psychologue et psychothérapeute, ayant mis en œuvre une approche unique et holistique de l'être, où les dimensions psychologiques et spirituelles se rejoignent.
En Inde, on appelle aussi la pure connaissance, en contraste avec l'impure connaissance, qui est la connaissance dans le monde duel, la connaissance de notre science en fait, qui peut faire des choses, qui construit des ponts, des avions, qui fait énormément de choses, qui est une connaissance, mais elle est impure parce qu'elle n'intègre pas la vraie réalité, le soi, elle reste au niveau duel. Donc on appelle ça la connaissance impure.
Et comment définiriez-vous la vraie réalité, si c'est possible d'y poser quelques mots?
Vous dites très bien, est-ce que c'est possible d'y dire quelques mots? Pas évident, parce que les mots sont toujours encore empreints d'un langage duel. Et on est là à quelque chose qui n'est plus d'ordre de l'objectivité comme on l'adore dans notre société. Les objets, le voir, c'est une connaissance qui, un, est plus intérieure, passe par une intuition, par une ressenti très profond. Et c'est comme en allant à l'intérieur profondément, il y a un moment où on joint l'extérieur. Comme les deux, en fait, ne sont pas scindés. C'est pas il y a l'extérieur et l'intérieur. C'est tout cet extérieur vient de l'intérieur et est à la fois à l'intérieur.
C'est vrai que c'est un petit peu paradoxal, le genre de concept auquel nous ne sommes pas habitués ici.
Oui. Exactement. Quand on dit plus du sujet et d'objet, c'est la même chose, c'est l'état, c'est ce que j'essaye de faire comprendre aux gens. En fait, si on lâche le mental, on est dans une pure jouissance. Le moment présent qui est d'une lumière, d'une béatitude, d'une plénitude, d'une joie.
Et justement, vous animez des ateliers pour apprendre aux gens, en fait, un nouveau langage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ça?
C'est exactement familiariser les gens avec un bien-être qui est très gratuit et très simple. Commencer à oser, je dirais presque à réfléchir moins. Et voir qu'on ne perd pas grand-chose. Comme on dit, c'est dans le ressenti, on est beaucoup plus dans une connaissance immédiate qui nous aide beaucoup plus à aussi diriger notre vie. Parce que bien sûr, le mental, ce n'est pas le jeter dans la poubelle. On a besoin de s'orienter dans la vie, d'organiser, de planifier. Il est utile, mais il est juste utile. Il n'est pas capable de nous renseigner sur l'essentiel. C'est en le calmant que nous comprenons, mais d'une façon directe, intuitive, on a des certitudes. Comment est la vie, comment est l'autre, qu'est-ce que c'est l'amour, on voit comment tout est relié. C'est une éducation. Et souvent je dis, il faut aider l'esprit à s'intérioriser, à se calmer. Et c'est un chemin à faire. C'est en faire l'expérience qu'on commence à sentir.
Ça reviendrait un petit peu à l'idée de vivre dans le moment présent. C'est-à-dire que vous parliez du nombre de pensées qui, quand même, c'est impressionnant, que nous entretenons chaque jour individuellement et qui sont finalement, pour la plupart, inutiles, voire même toxiques. Parce que c'est comme un petit vélo qui tourne. Souvent, on a les mêmes pensées, donc il n'y a rien de constructif là-dedans. Et donc, si on ne pense plus, qu'est-ce que, dans ce cas, serait le moment présent? Comment vivre? Comment se sentir dans ces moments-là?
C'est comme une harmonie, une paix avec ce qui nous entoure, avec ce qu'on a à faire, avec ce qui est devant nous. C'est parfait. Une sensation de perfection de tout ce qui arrive. On prend cette vie pour acquis. Et en fait, elle est le plus grand mystère, le plus grand cadeau, le plus grand merveille du monde.
Et c'est vrai que c'est difficile à intégrer, parce que souvent on a l'impression de subir notre vie, que les événements extérieurs nous tombent littéralement dessus, que nous n'y pouvons rien, et nous avons tendance à nous positionner en tant que victimes. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui pensent que nous co-créons notre réalité et nous avons notre psyché agit littéralement sur la matière et les événements ne sont pas des coïncidences ou...
Oui, exactement. C'est ce que la physique quantique montre, heureusement.
Parlez-nous un petit peu de la physique quantique.
Elle dit, entre autres, que ce qu'on voit va être déterminé par la question dont on a dans la tête. Je cherche une particule, ça serait un point. Je cherche une onde, c'est une onde. Les choses ne sont pas prédéfinies tant que telles.
tant que la conscience de l'observateur n'a pas posé son regard sur l'observé, en fait.
Exactement. Mm. Son regard va créer, co-créer la chose qui se manifeste. Mm. Et en psychologie, on sait ça déjà beaucoup mieux. Tu vas voir, on est dans une salle, tu ne vas pas voir les mêmes choses que moi. Tu vas voir d'autres personnes, ou tu vas voir des sourires, ou moi je vois peut-être des gens malheureux ou l'inverse, tu vois. Si on est heureux, on voit que des gens heureux. Si on est malade, on voit des gens malades. Si on veut un enfant, on voit que des bébés. C'est connu, ça. On voit le monde et il est vraiment. Ça va plus loin. C'est comment on le crée réellement.
À partir de là, maintenant, si on le sait, oui, que rien n'est extérieur mais n'est qu'une projection de notre intériorité, c'est révolutionnaire.
C'est l'est. Et d'ailleurs, le monde est en révolution. On voit cette révolution. Ça commence avec une espoir, avec une croyance et avec une reliance. Alors là, tout d'un coup, on crée à chaque instant. Et si on va dire la vie est un ennemi, est un calvaire, est un poids, ben la vie va être ça. Et si on dit la vie est merveilleuse, la vie va être merveilleuse. C'est pas juste du positive thinking, c'est une réalité ontologique, je dirais. C'est, l'émerveillement est tangible. Ce n'est pas à créer, elle est préexistante. Ça, c'est ce que j'aime le plus. Transmettre, tu
vois. Tout est là, en fait. Et il suffit juste qu'on se branche sur l'amour. Tout comme on a souvent l'habitude dans notre société de se brancher sur la peur. Et finalement, on reçoit l'antenne radio sur laquelle on se branche.
Oui, hein, exactement.
Qu'on cherche à capter.
Et c'est facile et en même temps, voilà, vous avez tout dit, c'est aussi difficile parce que toute notre société va tout faire pour nous rendre de nouveau dans les rouages de notre habitude. Un homme mental, il est, je dirais, une bête habitude. On est conditionné, on a des pensées, on est éduqué comme ça, on s'est identifié avec elle, ça nous donne une existence et la société va tout faire pour confirmer qu'on est un être limité, sans trop de pouvoir, etc. Un enfant, comme j'enseigne souvent, un bébé, il est encore très près de cette conscience ouverte. Il nous ouvre le cœur, on dit. Il est pur amour, il est innocent, il est pur. Mais il va petit à petit prendre le jeu des adultes qui l'entourent. Il va apprendre le mental, il va être quelqu'un, une identité limitée, il est dans la cage, que j'appelle une cage. Et après, il va faire des choses pour mériter de l'amour, comme s'il est coupé de cet amour. Parce que c'est ce qu'il apprend, que c'est quelque chose qu'il faut mériter, en fait, ou il faut chercher. Ça, c'est complètement aberrant.
Et pour que le monde change, alors, il faudrait que ça passe par l'éducation. C'est-à-dire que les parents, justement, écoutent ce message, intègrent le fait qu'ils sont beaucoup plus que ce qu'ils pensent être, et que s'ils arrivent à modifier leur façon de voir sur le monde, ils lègueront à leurs enfants une autre façon de voir le monde, ce qui leur permettra de vivre beaucoup plus heureux et peut-être même de mettre fin à toutes les crises qui nous entourent. Alors, vous parlez de reliance hier, justement. Pouvez-vous un petit peu nous expliquer votre façon de concevoir l'origine des crises que nous traversons actuellement et comment y remédier ?
Je pourrais dire deux choses sur l'origine des crises selon mon idée. C'est une évolution qui est déjà lointaine, où l'être humain a commencé à scinder. Hein, religion, quand on a mis Dieu dehors et dit Dieu, c'est pour les religions, la science. Nous, on peut aller vers le monde et la science est différente. Ces scissions successives de plus en plus, cloisonnement. Après, on a cloisonné la médecine, d'autres choses. Après, dans la médecine, toutes les parties du corps sont cloisonnées, d'autres spécialistes. Tout est cloisonné, tout est scission. Ça, c'est une évolution qu'on voit de plus en plus. Tout est spécialisé. Donc, on va dans la différenciation maximum et on quitte le lien où tout a été relié. Toutes les sciences ou religions et cosmogénie, comme j'ai dit en Inde, c'est encore le cas. Tout est relié, c'est une même connaissance. Qu'on s'est aliéné petit à petit de notre essence qui est aussi être relié à tout. Et une autre lecture qui pour moi me paraît très importante, c'est, et ça va de pair, est le déséquilibre, comme j'ai dit hier, entre l'homme et la femme, entre le masculin et le féminin.
Résoudre les crises ? Facile ! Il nous suffit juste de réfléchir moins, ressentir plus, et surtout, de vivre relié.
C'était un sujet réalisé par Audrey Scavinet.